Frères et sœurs, les amis, nous voilà arrivés au cinquième dimanche du temps ordinaire. J'allais dire plus qu'un dimanche et nous rentrons dans le carême qui sera le mercredi 17 février par le mercredi des cendres. Alors l'évangile de ce jour, c'est la même thématique que dimanche dernier, donc je ne vais pas m'y arrêter. Je vais, comme je m'y engage modestement, réfléchir et méditer avec vous sur la première lecture tirée de l'Ancien Testament et plus exactement un livre de sagesse qui est le livre de Job. Alors, c'est vrai qu'on ne le lit pas très souvent, j'allais dire malheureusement, on ne le connaît peut-être pas trop, j'allais dire pour la bonne et simple raison que, évidemment, il parle de la souffrance. Alors, quelques mot rapide sur l'ensemble du livre de Job. Ce livre raconte l'histoire de ce Job en question. J'allais dire, ça commence, il était une fois en Jordanie, un homme appelé Job, qui n'a en définitive jamais existé, parce que c'est une histoire, c'est un conte, qui tourne autour, du mystère de la souffrance, de la justice, plus exactement de l'injustice, vue du côté de Job, et aussi de l'espérance. Alors Job est évidemment un homme de douleur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de sa vie, il avait tout pour être heureux. Le bonheur absolu, la réussite sociale, une grande famille, un grand domaine, beaucoup de troupeaux d'animaux, un homme respectable et respecté, dont on prenait la vie pour les affaires importantes, très riche, une richesse, dirait-on aujourd'hui, proverbiale dans tout l'Orient, et surtout, il avait la santé. Dieu permet donc que ce qu'on appelle le semeur de troubles, le malin, a insinué que la foi de Job a insinué auprès de Dieu que la foi de Job ne résisterait sûrement pas à l'épreuve. Alors, Job était un homme juste, c'est-à-dire en accord avec la justesse et en justesse avec Dieu. Et évidemment, comme il avait tout pour être heureux, on pourrait dire humainement qu'il n'avait pas grand mérite, puisque sa vie était un chemin pavé de réussite. Mais voilà que les épines, les tracas et les épreuves vont arriver et fondre sur lui. Épreuves toutes plus douloureuses les unes que les autres. Et pratiquement tous les malheurs se sont abattus sur lui. Fini la famille, la maison, la richesse, les enfants, la santé, la force physique. Il n'était même plus un corps humain. Il n'était qu'une plaie repoussée par tous, à commencer par, bien sûr, sa femme, par les gens d'alentour et par les bons amis, remplis toujours de bonnes intentions. Alors va commencer, rapidement, la situation de Job. Va commencer pour lui un long tunnel. Et ce qui était prévu arrive. Job, qui malgré tout est un homme d'espérance, et son espérance à lui, c'est de tenir coûte que coûte. Et il attend que justice soit faite. parce qu'il considère que ce n'est pas juste tout ce qui lui arrive. Il attend donc d'être compris, éventuellement soulagé, d'être compris de Dieu, ramené à la vie, à la santé, d'être entendu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas arrêter de parler et de crier. Je pense que c'est ça, déjà, la première leçon à tirer. C'est qu'il faut toujours parler, et donc qui dit parler dit être écouté, même hurler, c'est ce qu'il va faire, sa souffrance, son injustice qu'il est en train de vivre au travers de ce qui lui arrive. Il ne va donc pas arrêter de parler, et son espérance, c'est la parole. Donc il faut, nous aussi, que nous puissions parler, échanger et nous écouter les uns les autres. Alors, Job va se taire que, on le verra dans quelques instants, que lorsque Dieu se sera montré. Quelles leçons tirer de ce livre? La première, c'est que la souffrance, elle est vue malheureusement comme une punition. C'est du reste ce que les amis et les arguments des amis vont lui dire. Si tu es puni, c'est parce que tu as péché. Hein? Et à quoi Job va répondre? Non, il ne va pas cesser de répondre, non, je vous assure, je n'ai pas péché. Et les amis de surenchérir en lui disant, mais non, si tu es ainsi, c'est que tu fais une faute double, c'est-à-dire tu dis que tu n'as pas péché, et en plus de ça, tu t'entêtes à dire que tu n'as pas péché. L'autre point, c'est que la souffrance, bon, est une école, entre guillemets, de vertu. On avait autrefois l'habitude d'entendre « qui aime bien, châtie bien ». C'est du reste l'argument des amis de Job. Où on entend dire, on entendait dire « Ben écoute, si tu as fait quelque chose de mal quand on était enfant, le bon Dieu ne sera pas content. » Bon. Des remarques de ce genre plutôt moralisantes. Dieu va en fait reprocher aux amis d'avoir fait de la morale, puisque il dira, seul Job a bien parlé de moi. Donc on voit bien que la logique des amis ne tient pas aux yeux de Dieu. Et lorsque Dieu va enfin intervenir, après avoir entendu et accueilli tous les cris de Job, qui évidemment considère tout ça comme une injustice, mais aussi, il voit bien, c'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui, combien de fois nous voyons des bandits vivre longtemps et heureux, impunis, très souvent, pendant que des gens honnêtes, des innocents, ont une vie totalement pourrie et de grandes souffrances. Donc, Job va dire qu'il n'y a pas de justice. Et c'est bien ce que nous entendons aujourd'hui. Je crois que chacun peut trouver un exemple à donner. Alors, c'est arrivé à ce moment-là, au moment où, j'allais dire, Job vaincu, mais toujours dans la justesse et dans l'espérance, son espérance qui est celle de parler, de crier. C'est au moment où il conclut qu'il n'y a pas de justice, qu'il va être prêt à découvrir qu'en fait Dieu l'attendait. Il l'attendait là. Et il y a une sorte de renversement, puisque c'est Dieu maintenant qui va prendre la parole. Et comme nous le disions déjà dimanche dernier, le Christ n'a pas fait de reproche à l'homme qui était habité par un esprit impur. Là, c'est la même thématique. Dieu ne lui fait aucun reproche. Il ne fait aucun reproche à Job. Par contre, aux amis de Job, oui. Et lorsque Dieu va dire dans le texte du livre de Job, « Seul Job a bien parlé de moi », ça veut dire que, tout simplement, Job a eu raison de parler, et de parler sans cesse, de crier, même de se révolter. Mais Dieu va inviter Job à contempler la création et le faire progresser dans un acte d'humilité. Dieu va agir à l'égard de Job comme un père à l'égard d'un fils, en le reprenant gentiment, mais avec droiture et fermeté. Comment ? En faisant comprendre, et c'est la deuxième leçon à tirer, me semble-t-il, de ce livre, en faisant comprendre à Job que ses pensées ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines. Et que si nous ne comprenons pas la justice de Dieu, si la justice de Dieu nous échappe, eh bien cela ne nous donne pas l'autorisation de la contester, ni même de la critiquer. Nous avons dit que Job était un homme intègre, juste, droit, et il va avouer, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent, au chapitre 42, je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je, Seigneur ? Voilà. Donc on voit une fois de plus, c'est aussi un point important à reconnaître et à accueillir pour nous, que c'est par un profond acte d'humilité, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous appelons, nous, de manière humaine, la justice de Dieu. Souvent nous la comprenons comme étant une injustice. Et souvent nous sommes confrontés à une injustice peut-être plus grande encore, qui est le silence de Dieu. Et donc Job reconnaît qu'il a abordé sans le savoir des mystères qui le confondent. Donc Job va être restauré dans sa dignité, dans sa richesse, etc. Donc c'est la conclusion du livre. Mais en définitive, ce livre de Job, de manière très paradoxale, peut-être très décevante, ou certainement très décevante pour nous, ne donne pas d'explication sur la souffrance. Si nous attendions une explication sur la souffrance, il n'y en a pas. Mais comme chaque fois, le Seigneur nous indique une voie, un chemin, une direction. Et cette voie et cette direction, c'est nous qui la creusons nous-mêmes en parlant, en criant notre souffrance, peut-être en nous révoltant sur cette souffrance. Car nous savons que Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit lui-même. Donc il est évident que quand on souffre à la manière de Job, on a du mal à adhérer à cela. Mais on voit bien qu'il y a un acte de foi à faire, à aller à la rencontre même du silence de Dieu. Pour en conclure, en définitive, que la personne du Christ, et ça nous le savons, nous aurons l'occasion de le redire et de le comprendre peut-être et de l'accueillir durant le carême qui va commencer dans une dizaine de jours, À savoir que Jésus, lui non plus, n'a pas donné durant sa vie parmi nous d'explication à la souffrance. Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu la prendre sur lui-même et l'habiter. Donc dans nos cris, dans nos révoltes, eh bien paradoxalement, il y a la présence du Seigneur. Alors, vu les temps que nous vivons, nous rejoignons en fait ce livre de Job, parce que Job c'est monsieur tout le monde, c'est vous et c'est moi, dans nos incompréhensions de ce qui arrive en ce moment, dans les injustices fort nombreuses que nous pouvons voir. Mais nous savons, nous chrétiens, même si nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que pour finir, toute espèce de mal sera terrassée, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier. Et donc nous sommes certainement à un moment de notre existence où c'est l'épreuve de la foi. Alors n'ayons pas honte de parler, de crier nos incompréhensions, de partager tout cela, en sachant que le Seigneur nous écoute. Et plus encore que l'écoute, il est présent, il va se rendre présent dans l'Eucharistie et présent réellement en chacun de nous pour nous prendre sur ses épaules. Amen.